Aujourd'hui, on commence une nouvelle année et qui sera riche en événements de toutes sortes. Certaines choses que nous avons prévues et d'autres qui nous n'avons pas prévues vont nous tomber dessus sans crier gare. Et chaque année nous réserve son lot de surprises. Cependant, pour tous ceux qui ont placé leur confiance dans le Seigneur Jésus, une nouvelle année nous rappelle que son retour est encore plus proche que l'année qui vient de se terminer et que nous avançons, nous, de notre côté, toujours plus près ou vers la fin de notre pèlerinage terrestre. Et nous savons que lorsque ce jour surviendra, nous devrons tous comparaître devant le Seigneur pour être jugés par lui, et chacun recevra ce qui lui revient, selon ce qu'il aura fait de bien ou de mal durant sa vie terrestre. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Pour ceux qui se sont efforcés de vivre comme Dieu le demande, ils l'entendront dire, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez le royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. » Tandis que d'autres qui auront vécu pour eux-mêmes l'entendront dire, « Allez-vous-en, loin de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et pour les anges. » Ce n'est pas une parole du pasteur Hudon, c'est une parole du Seigneur Jésus-Christ, et on sait qu'il n'est pas menteur, puisqu'il n'a jamais commis de péché, mais ce sont des paroles très dures, quoi. Très dures, et qui sont lourdes de conséquences aussi. Et je pense que le Seigneur, eh bien, s'il nous en a parlé de cette façon-là, c'est par amour pour nous, c'est pas pour nous faire peur. Le Seigneur, il ne nous a jamais donné sa parole pour nous faire peur. C'est parce qu'il nous aime et il sait ce qui nous attend. Et il veut faire en sorte de nous... Il nous donne deux endroits. On a deux endroits. C'est un choix qu'on va faire. On a deux endroits où on va passer l'éternité. Et dans son amour, il a voulu vraiment nous donner toute la vérité, nous dévoiler sa vérité pour que nous puissions faire le bon choix. Et c'est ça la libre arbitre. C'est ça la grande responsabilité de l'homme. Et moi, je pense que la libre arbitre, une des raisons pourquoi Dieu a donné la libre arbitre, c'est que quand on va comparer devant lui, on ne pourra jamais dire « c'est ta faute si moi je m'en vais en enfer, c'est ta faute si moi je n'ai pas entendu parler de l'Évangile ». Le Seigneur l'Église aura peut-être des comptes à rendre parce qu'elle ne proclame pas l'Évangile à l'extérieur. Ouais. Le Seigneur, il pourra lui dire « écoute, ben, à ce moment-là, tu devrais te tourner vers la... C'est la faute de l'Église qui n'a pas pris ses responsabilités, qui a préféré être un club social plutôt que de me représenter sur la terre et proclamer le royaume. Hein? » Quand le Seigneur a dit « le royaume est arrivé parmi vous », il est là, il est présent. Jean-Baptiste a dit, c'est approché. Jésus a dit, il est là, le royaume. Eh bien, on est des représentants du royaume, mais on devrait proclamer ce royaume-là. Moi, honnêtement, j'ai jamais fréquenté une église évangélique, jamais, jamais. J'ai entendu l'Évangile en dehors de l'église évangélique, et je suis toujours reconnaissant pour ce chrétien qui, à l'extérieur de l'église, a osé ouvrir la bouche pour me proclamer la parole de Jésus-Christ. Sinon, je serais encore perdu aujourd'hui dans mes péchés. Je loue le Seigneur pour ça. Et l'Église n'est pas là pour attendre que les pécheurs rentrent dans l'Église. L'Église, elle est là pour aller vers les pécheurs, pour leur proclamer ce beau message. Et c'est l'exemple que le Seigneur Jésus nous a donné. Il est descendu du ciel, il est venu. Il est venu pour aller proclamer un beau message, un message de délivrance. Puisqu'à chaque année qui passe, le retour se rapproche, son retour se rapproche toujours davantage, permettez-moi de profiter de ce premier jour de 2017 pour vous amener à réfléchir sur la façon dont vous avez vécu l'année 2016. Et c'est bien parce que je trouve que, à travers les cantiques, à travers les prières, les choses s'imbriquent par rapport au message. Il y a vraiment une connexion. J'aimerais que vous amener à réfléchir sur la façon dont vous avez vécu l'année 2016 et vous suggérer quelques résolutions pour l'année 2017. Ce que je vise avant tout, c'est nous encourager à faire un meilleur usage de 2017, en 2017, que nous n'avons peut-être pas pris. Pour le Seigneur en 2016 et nous préparer pour le jour où nous le rencontrerons face à face. Alors, je vais commencer, c'est la première fois que je fais ça, un petit peu une rétrospective, mais c'est intéressant, je pense que la première journée de l'année, c'est bon qu'on puisse s'examiner. Et je commence au cours de l'année 2016, est-ce que votre relation avec le Seigneur s'est améliorée? C'est une bonne question, hein? C'est une bonne question, je préparais le message, je me disais, « Seigneur, est-ce que ma relation avec toi, elle s'est améliorée en 2016? Est-ce que nous nous sommes approchés encore plus près du Seigneur, ayant à l'esprit qu'une relation étroite dépend d'une bonne communication? Quelle a été notre communication avec le Seigneur tout au long de l'année 2016? » Bonne question, non? Est-ce que ma relation, ma communion ou ma communication avec le Seigneur a diminué? Est-ce qu'elle est restée stagnante ou si elle s'est améliorée? Avons-nous été régulièrement à l'écoute de ce que Dieu avait à nous dire dans sa parole? Avons-nous pris du temps à méditer sa parole au cours de l'année 2016? Est-ce qu'on a médité plus souvent la parole en 2016 qu'on l'a fait en 2015? Parce qu'on va avoir un point de repère. Dans le cas contraire, et particulièrement si nous ne l'avons jamais fait, pouvons-nous dire honnêtement que nous prenons notre relation avec Dieu comme étant quelque chose de sérieux? C'est une bonne question aussi, non? Je ne suis pas convaincu que des gens qui se rencontrent, qui ne se parlent jamais, puissent dire qu'ils s'apprécient, en tout cas qu'ils s'aiment beaucoup, ou qu'ils ont une grande estime pour cette personne-là s'ils se rencontrent et ils font comme s'ils ne les avaient jamais rencontrés, qu'ils ne les avaient jamais connus. Avons-nous fait preuve de constance pour parler à Dieu dans la prière? Nous savons, je le répète, que toute communication efficace ne se fait pas à sens unique, mais elle se fait dans les deux sens. Quelqu'un parle, on attend et on écoute, et l'autre répond et on écoute. Et dans le cas, par conséquent, la méditation des Écritures doit être accompagnée d'un moment de prière. Est-ce que le temps que nous avons consacré à la prière a augmenté, est demeuré stagnant ou a diminué en 2016? Bonne question, non? Une très bonne question. Est-ce que notre relation avec nos frères et sœurs en Christ s'est améliorée en 2016? Est-ce que notre amour pour nos frères et sœurs en Christ a diminué et demeuré stagnant ou s'il a progressé en 2016? On peut se dire qu'elle a diminué, on peut se dire qu'elle a stagné, on peut se dire qu'elle s'est améliorée, mais quels sont les signes extérieurs qui nous démontrent ces trois choses-là? Quels sont les signes extérieurs? Par exemple, est-ce que notre amour les uns pour les autres a progressé? Paul écrivait aux chrétiens de l'Église de Thessalonique, « Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel. En effet, vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. » C'est extraordinaire, ça. Et les chrétiens de Thessalonique, comment ils ont appris de Dieu à s'aimer les uns les autres? Ben oui, parce que c'est les dieux qui leur ordonnent de s'aimer les uns les autres. C'est dans sa parole qu'ils ont trouvé la source qui pouvait les pousser à les aimer les uns les autres. Et cette source, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu a tellement aimé le monde. Aimez Dieu et aimez votre prochain comme vous-même. Notre prochain, c'est nos frères et sœurs en Christ. Notre prochain, c'est aussi les gens de l'extérieur. C'est d'ailleurs cet amour que vous manifestez envers tous les frères de la Macédoine, mais nous vous exhortons, frères, à faire mieux encore. C'est extraordinaire, hein? Paul, il leur dit, écoutez, l'amour que vous manifestez, l'amour fraternel que vous manifestez les uns pour les autres, c'est incroyable. Et il termine en disant, mais nous vous exhortons, frères, à faire mieux. Pourquoi? Parce que si on n'a pas une ambition spirituelle dans nos vies, eh bien, on va se laisser aller tôt ou tard. On va se laisser aller. Et c'est pour ça qu'on doit être toujours défié, aller toujours plus loin, chercher à aller plus loin avec le Seigneur dans notre relation. Sinon, les êtres humains tels que nous sommes, eh bien, quand on commence à stagner, on commence aussi à reculer. Et des fois, on voit la distance qu'on a perdue tellement éloignée d'où on était que finalement, on est porté à se décourager. Sommes-nous plus près les uns des autres que nous l'étions il y a un an? Par exemple, avons-nous visité des frères et sœurs en Christ au cours de l'année? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, quelles sont les raisons valables qui nous ont empêchés de ne pas visiter nos frères et sœurs en Christ? Que ne sont-nous ceux et celles qui fréquentent notre Église par leur prénom? Si ce n'est pas le cas, est-ce que j'ai fait des efforts pour les connaître? Ou si à chaque fois que je rencontre quelqu'un dans l'Église, que je rencontre un frère ou soeur, je dis « Rappelle-moi donc ton prénom. Rappelle-moi donc ton prénom. » Ça fait étranger, hein? Je ne dis pas que la première fois, c'est normal, hein? C'est tout à fait normal. Mais quand ça fait 6 mois, 1 an que la personne vient et qu'on doit lui demander constamment son prénom, ça donne un signe qu'elle n'est pas nécessairement dans nos pensées ni dans nos prières, hein, que ce n'est pas un sujet de prière pour nous. Est-ce que notre relation avec les gens du monde s'est améliorée en 2016, frères et sœurs? En tant que membres du peuple de Dieu, nous avons une importante responsabilité envers les gens du monde. C'est nous qui sommes le sel de la terre, c'est nous qui sommes la lumière du monde. Avons-nous eu une influence positive vis-à-vis de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur en 2016? Leur avons-nous montré un chemin meilleur que celui qu'ils suivent? Avons-nous fait des progrès significatifs en 2016 pour développer des relations avec les gens du monde de manière à ce qu'ils voient la lumière de Christ brille en nous? Avons-nous trouvé du temps pour leur parler de celui qui est la lumière du monde Ou bien est-ce que nous avons fait comme la plupart des gens qui vivent sur la même rue depuis des années et qui ne connaissent même pas le nom de leurs voisins? Quand j'étais policier, il m'arrivait d'aller chercher des cadavres dans des maisons ou dans des blocs appartements, de 6 appartements ou de 9 appartements, où les gens nous appelaient parce que ça sentait tellement mauvais que les gens ne pouvaient pas ouvrir leurs portes pour sortir parce que leurs voisins, ça faisait 10 jours, 15 jours qu'ils étaient décédés et que les gens s'en étaient même pas aperçus. Dans le même building, pas sur la même rue, dans le même building. Sur le même étage, des gens qui ne se parlaient jamais. Il m'arrivait de frapper à des portes et je demandais aux gens qui habitent à côté. Je ne sais pas. Ça fait combien de temps? Je pense que ça fait au moins 5 ans qu'ils déménagent. Et, moi, les gens ne se connaissent pas. Les gens ne se connaissent pas. Les questions que je soulève peuvent se résumer de la manière suivante. Une autre année vient de se terminer. Avons-nous fait un bon usage du temps, du ce que le Seigneur nous a donné pour l'avancement de son royaume ou l'avons-nous gaspillé? Le but, ce n'est pas que vous vous sentiez coupable. Le but, c'est simplement que on puisse faire de façon honnête, un examen de d'où on en est rendu dans notre vie chrétienne. Il est probable que nous tous, dans une certaine mesure, nous n'avons pas toujours fait un bon usage du temps que nous aurions dû consacrer pour le Seigneur. Mais à ce stade, nous allons appliquer les paroles de Paul. « Frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. » Et en ayant cette attitude, frères et sœurs, permettez-moi de vous suggérer quelques résolutions pour 2017. Prendre la résolution de nous approcher davantage du Seigneur. Ça, c'est une de mes résolutions. Prendre davantage de la résolution, qui est une décision pour moi de m'approcher davantage du Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que non seulement ça va être bénéfique pour ma vie, mais ça va être bénéfique aussi pour votre vie. En établissant un programme de lecture quotidienne pour nous encourager à vivre comme Dieu nous le demande et méditer sa parole qui est vivante et efficace et qui juge les désirs et les pensées du cœur humain. J'ai un programme de lecture quotidienne, j'ai un temps pour prier, mais je trouve que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour moi. Par exemple, en lisant tout l'Ancien Testament cette année, c'est un beau défi, l'Ancien et le Nouveau. Tout ce qui a été écrit dans le passé vise à nous instruire, dit l'apôtre Paul, afin que grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Par exemple, tous les malheurs qui nous sont arrivés, qui sont arrivés au peuple de Dieu visent à nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour nous avertir, car nous vivons en un temps proche de la fin, dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens, chapitre 10. Et c'est vrai que quand on regarde les aventures, les épreuves, les difficultés, les tentations qui sont survenues à ceux qui nous ont précédés dans l'Ancien Testament, le monde n'a pas changé, c'est exactement ce qu'on est appelé à vivre. Bien sûr, à travers des gens qu'on appelle les héros de la foi, parce qu'ils ont persévéré dans leur foi, parce qu'ils ont persévéré dans l'obéissance à la parole de Dieu, eh bien, ils ont pu louer, ils ont pu glorifier le Seigneur, ils ont pu grandir dans leur foi, dans leur connaissance de la personne de Jésus-Christ. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est pour ça qu'on a besoin, de lire aussi l'Ancien Testament pour nous rappeler d'une chose, c'est que quand il nous arrive quelque chose de difficile, c'est pas la première fois que ça tombe sur quelqu'un, et ça sera pas la dernière fois que ça va arriver à quelqu'un. Mais ce qui est béni dans l'Ancien Testament, quand on jette un regard dans l'Ancien Testament, on voit à travers des êtres humains, pas Jésus, parce que les gens nous disent souvent, « Oui, mais Jésus, c'est Jésus, hein? Moi, je suis pas Jésus. » Non, mais va dans l'Ancien Testament, tu vas voir que de simples êtres humains, hein, s'en sont sortis par la grâce de Dieu. Et à cause de leur foi et leur fidélité dans la parole du Seigneur. Et on est invité à faire la même chose, à imiter ces gens qui nous ont précédés. Peut-être que c'est une pointure trop élevée pour la plupart d'entre nous de viser à ressembler à Jésus-Christ, mais au moins commençons à viser peut-être moins haut, à regarder ceux qui étaient des simples êtres humains comme nous et qui y sont arrivés par la grâce de Dieu. Et ça, c'est stimulant. Après, on peut commencer à regarder celui qui est mort pour nous, celui qui dans sa grâce, eh bien, nous a donné son Saint-Esprit pour que nous puissions être capables un jour de marcher comme lui a marché. Amen! Alors, par exemple, en prenant la décision non seulement de lire l'Ancien, mais aussi de lire le Nouveau Testament, nous savons, dit Paul, que les Saintes Écritures peuvent nous donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. D'ailleurs, nous pouvons leur faire confiance parce que nous savons que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes, je l'ai en français courant, hein, et former une juste manière de vivre afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute bonne action. Extraordinaire, cette belle parole de Paul. Regardez le psaume 119, verset 162. 119, 162. Pour ceux qui ont leur Bible ce matin. Quelqu'un peut la lire à haute voix dans la Louis II, le verset 119, 162.
Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor.
En français courant, c'est ceci. Je me réjouis de ton message comme d'un grand trésor que j'aurai trouvé. L'apôtre Pierre nous invite à désirer ardemment l'aile spirituelle et pur de la parole, afin qu'en la buvant, nous puissions grandir et parvenir au salut. Et le psalmiste ici, et quand vous lisez le psaume 119, vous apercevez que c'est quand même quelqu'un qui a une relation assez particulière avec le Seigneur. Il dit, je me réjouis de ton message comme d'un grand trésor que j'aurai trouvé. Frères et sœurs, prendre la résolution en 2017 du temps de consacrer du temps à la prière. Nous savons que nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance du trône de sa grâce. Et c'est là qu'on y trouve le pardon. C'est là qu'on y trouve la grâce pour être secouru au bon moment. Et c'est dans la prière. Et moi, je suis convaincu que le Seigneur, il doit se réjouir quand un de ses enfants prend du temps à prier avec lui. Si je peux vous donner une illustration, c'est comme si on décroche le téléphone, on prend du temps pour appeler quelqu'un qu'on apprécie. On décroche. Et il n'y a pas besoin de décrocher au bout. Il est toujours décroché, le Seigneur, son téléphone. Et là, on peut y parler. On sait qu'il n'y a pas son téléphone comme ça, qui fait semblant de nous écouter. Puis quand il n'y a plus de bruit, oui, allô, ouais, ça va bien. Non, le Seigneur, il est à l'écoute de ses enfants. C'est extraordinaire. Et on n'est pas obligé d'arriver en smoking ni avec une cravate pour lui parler. On vient tel qu'on est. On se lève le matin, on se met à genoux, on est en pyjama, on se met à genoux, tout de suite au pied du lit. J'avais donné un truc une fois, hein. Quand vous vous couchez le soir, poussez vos souliers le plus loin possible en dessous du lit. La première chose que vous allez faire le matin, c'est que vous allez être obligé de vous mettre à genoux. Vous mettre à genoux pour aller les chercher. Donc, c'est la première chose. Quand vous êtes à genoux, restez à genoux, quoi, hein. Surtout en haut de 60 ans, des fois, les pentures, hein, les charnières des genoux, ils ont de la difficulté à se redresser. Donc, quand vous êtes à genoux, restez à genoux. Puis là, prenons un temps avec le Seigneur. On commence à genoux notre journée. Donc, c'est une bonne question. Bon, je ne pense pas vous coucher avec vos souliers. Donc, les souliers, vous les glissez très loin en dessous du lit. Et puis là, ben, le matin, vous êtes déjà à genoux. Vous pouvez tendre vos bras sur le lit puis commencer à remercier d'abord le Seigneur pour la nuit de repos qu'il vous a donnée. Et même si vous êtes réveillé à 3 heures du matin puis vous avez fait veiller jusqu'à 5 heures du matin, c'est dans le repos du Seigneur, c'est magnifique. C'est magnifique, voilà. Amen. Ah oui, hein. Mes meilleurs moments avec le Seigneur, c'est pas le jour. Moi, je suis un gars de nuit. Il me réveille la nuit. Et moi, je parle au Seigneur comme si c'était mon ami, hein. Je lui dis, là, Seigneur, écoute, tu sais que demain, ouais, tu sais ce que j'ai à faire, hein. Je garde le petit, c'est ma journée de mercredi. Là, tu viens de me couper 2 heures de sommeil, il faut que je dorme, hein. Et le Seigneur, il me lâche pas, hein. Ouais, on continue encore un peu. Et pourtant, le jour, quand je m'occupe de mon petit-fils, bien, c'est comme si j'avais eu toutes mes heures de sommeil durant la nuit. Le Seigneur n'est pas là pour m'assommer, il n'est pas là pour me rendre malade, hein. Le Seigneur, il veut prendre un temps avec moi. Et c'est ces moments-là dans la nuit que je peux préparer mes messages, quoi. Et le problème, il faut se lever pour aller les écrire, parce que là, on oublie tout quand on se réveille le lendemain matin. Alors, je vais me lever en plus, aller dans mon bureau, commencer à mettre des points de repère. Mais ces moments privilégiés dans la prière, hein. Il faut arrêter de voir la prière comme étant quelque chose de très, très religieux, foncièrement religieux, mais on doit voir ces moments de prière comme étant un privilège que le Créateur accorde à sa pauvre créature, quoi, sauvée par grâce. C'est comme ça qu'on doit le voir. C'est comme ça qu'on doit le voir. Le Seigneur, à chaque matin, on peut même faire comme Daniel, hein, 3 fois par jour, à chaque matin, il attend notre appel, frères et sœurs. C'est pas extraordinaire, pour qu'on lui dise ce qu'on ressent, quoi. Qu'on lui dise ce qu'on ressent. D'abord, l'appeler et dire, écoute, Seigneur, avant de te parler, je vais te dire une chose. Je te demande pardon parce que hier, tu n'as pas été dans ma vie du tout, quoi. Tu étais le deuxième, tu étais le troisième. Puis pardon parce que hier, je ne voulais pas trop en savoir sur toi. Je n'ai pas lu ta parole, quoi. J'avais d'autres choses à faire. Moi, je parle comme ça au Seigneur, hein. Moi, je ne suis pas un grand érudit. Moi, Moi, je vide mon cœur. Et c'est comme ça que, finalement, je pense que le Seigneur il comprend. Vous savez, des fois, j'entends des prières de chrétiens, là, ils sont tellement compliqués, je me demande même si Dieu est capable de les comprendre, quoi. Tellement compliqué, hein. Il faut parler à cœur ouvert avec le Seigneur, quoi. C'est parler à cœur ouvert. On n'est pas là quand on rentre dans une communication avec le Seigneur. On n'est pas là pour l'épater, quoi. C'est pas ça. Il veut qu'on y partage ce qu'on vit. C'est ce qu'il veut. Il veut qu'on partage ce qu'on vit avec lui. Ce qu'on vit avec nos frères et sœurs. On a des difficultés ensemble, hein. On est des êtres humains. C'est pour ça qu'on a des difficultés ensemble, hein. Il y a des sanguins, il y a des colériques et il y a des flegmatiques. Hein? Vous savez, des flegmatiques, ce que c'est? Hein? C'est des gens, ils sont... Vous avez de la difficulté à savoir s'ils sont heureux ou pas, parce que moi, j'en ai connu un à l'armée du salut, c'était terrible. Hein? C'était terrible. Et tu ne pouvais pas savoir s'il était heureux, s'il était malheureux, parce qu'il avait toujours le même visage. Ça va bien? Oui. Une journée que ça n'allait pas bien, ça ne va pas? Non. Et ça, c'est pesant. Hein? C'est pesant. Hein? C'est lourd. Hein? Alors, moi, je suis un sanguin. Hein? Alors, moi, c'est les baguettes dans les airs, et puis... Il faut que je parle, il faut que j'aie du monde autour de moi. Hein? Ça, c'est important. Il y en a d'autres, c'est des solitaires. Mais c'est ça, l'Église. C'est ça, hein? Ouais. Le problème en tant qu'être humain, c'est qu'on voudrait souvent que les gens nous ressemblent. Hein? Et un bon leader, là, il va chercher des gens qui sont différents de lui. Parce que s'il va chercher uniquement des gens, vous imaginez 7 sanguins dans le conseil de l'Église. 7 sanguins, l'Église, elle ne serait pas tenable, hein? Cette flegmatique, eh bien, on rentrerait le dimanche, vous penseriez qu'on est tous en train de faire une dépression, quoi. C'est bon, ce mélange, hein, et c'est béni, quoi. Le Seigneur, il veut changer notre caractère, mais pas notre personnalité. Et vous savez que dans notre corps glorifié, on va garder notre personnalité, hein. C'est pour ça qu'on va pouvoir se reconnaître, hein. Mais notre caractère, il veut l'amener à ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Mais notre personnalité, c'est ce qui fait notre unicité. C'est important qu'on le garde, hein. Oui. Oui. Et c'est avec ça qu'on travaille. Et si le Seigneur nous a acceptés, malgré nos personnalités, malgré qu'il y a des gens qui ont des personnalités très fortes, d'autres plus effacées, eh bien, si le Seigneur nous a acceptés tels que nous étions, hein, et que c'est notre caractère qui veut changer, on doit essayer d'imiter, on doit faire la même chose dans l'Église, quoi. Accepter l'autre tel qu'il est, pas essayer de le changer. S'il y a besoin d'être changé, laissons le Seigneur s'en occuper. Laissons le Seigneur s'en occuper. Amen. C'est important, ça. C'est vraiment important. Prendre la résolution de consacrer du temps à la prière. Prions avec fidélité, demeurons vigilants par la prière adressée à Dieu et faisons-le avec reconnaissance. Remercions Dieu en toutes circonstances. Celle-là n'est pas facile à digérer, celle-là, hein? Remercions Dieu en toutes circonstances. Même si ça nous fait mal, si on ne perd pas de vue que le but de Dieu, c'est de se glorifier, on va être capable de remercier Dieu en toutes circonstances. Dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi cette tornade me tombe dans la figure. Je ne le sais pas, mais je sais une chose, Seigneur, et c'est ce qui me réconforte. Voilà pourquoi j'ai un cœur reconnaissant. Je sais que tu vas te glorifier dans cette tornade, Seigneur. C'est ça que Dieu veut nous amener à réaliser. Et c'est ça que Dieu veut nous amener à prier. Seigneur, je ne sais pas pourquoi. La tornade, elle est longue. Elle ramasse, elle balaye beaucoup sur mon chemin. Elle me fait mal, Seigneur. Mais tu me demandes d'être reconnaissant envers ce que tu provoques dans ma vie. Et je sais non seulement que ce n'est pas pour me détruire, c'est pour me faire grandir, mais aussi, surtout, surtout, pour que tu puisses te glorifier. Ouais. Et quand on a saisi ça, on est capable d'être reconnaissant au Seigneur pour ce qui nous arrive dans la vie. Ouais. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, mauvais au niveau humain, mais il n'y a rien de mauvais que Dieu nous envoie dans nos vies. Parce que c'est toujours pour notre sanctification, c'est toujours pour notre édification, et c'est toujours pour se glorifier. Donc, voilà pourquoi on doit être reconnaissant en toutes choses. Amen. Amen. Voilà ce que Paul disait, voilà ce que Dieu demande de nous dans notre vie avec Jésus-Christ. Peut-être serait-il bon... Alors, je vais continuer. Prendre la résolution de connaître davantage nos frères, en nous efforçant d'apprendre leurs prénoms. Et moi, une manière pour moi de retenir les prénoms des frères et sœurs en Christ, c'est la suivante. C'est que j'ai le bottin téléphonique de l'Église qui contient un certain nombre de pages. Et à chaque jour, là, je prends les pages une par une et je prie pour une page, je prie pour les frères. Donc, le premier nom qui apparaît sur la liste, c'est notre sœur en arrière, qui est infirmière, et ainsi de suite. Et le dernier, elle n'est pas ici, c'est celle qui accompagne notre frère Walter et Isabelle. Et là, bien, je peux prier pour la liste. Et quand j'ai les enfants, je prie aussi pour les enfants. Mais ça me permet, la liste, elle n'est pas longue, hein? C'est 6 pages. Eh bien, ça me permet de revenir une fois par semaine et ça me permet de répéter continuellement les prénoms des gens. C'est une façon pour moi d'apprendre parce que moi, j'ai une mémoire de courte durée, j'oublie très facilement. Mais en revisant continuellement comme ça, j'apprends les prénoms, j'apprends plus facilement les prénoms des uns et des autres. Une autre façon de connaître davantage les frères et sœurs, c'est prendre la décision après le culte du dimanche d'aller trouver une personne différente. Moi, j'aimerais qu'on puisse prendre une décision, hein, même pour moi, hein, pour 2017. Dès quand on descend en bas, ne jamais aller voir la même personne quand on descend en bas le dimanche. Moi, je peux vous dire une chose, c'est des habitudes qui sont très, très difficiles à briser. Hein. Moi, je ne suis pas encore descendu. Hein. Je sais qu'en arrivant, quand je vais avoir un regard sur la salle, telle et telle personne sont assises sur le banc dur en arrière, telle et telle personne sont autour de la tasse de café, il y en a qui sont à droite, à côté, derrière la porte, il y en a qui sont tout près des bonbons, là, des chips, et il y en a qui sont au milieu, et il y en a un autre petit cas qui est à côté de la porte à gauche. Je pourrais faire la liste, hein. Mais je ne vous dis pas que c'est mal, mais de briser ça, parce que finalement, vous savez, ce qui arrive, c'est qu'elles sont groupées toujours ensemble, c'est qu'il y en a qui restent toujours tout seuls. C'est important qu'on aille voir ces gens-là. C'est vraiment, vraiment important. Alors, on fait un effort, on se dit, bon, bien, cette année, on se donne 4 semaines de vacances, donc, en principe, je devrais être 48 fois à l'église, et bien, 48 fois, je vais descendre, puis je vais essayer d'aller voir une personne différente à chaque dimanche. J'espère que vous allez prendre, faites un effort, en tout cas. Prenez la résolution, puis la résolution puisse devenir une décision. Mais les gens, c'est enrichissant, d'abord, de rencontrer les gens, et vous allez enrichir les gens aussi, à vous rencontrer différemment dimanche après dimanche. Amen. Hey, l'Église, c'est une famille. C'est une société, l'Église. C'est important. C'est important. Ma mère, elle avait 8 enfants, m'a confessé à 25 ans que j'étais son préféré. Beaucoup de raisons, parce qu'elle a passé beaucoup d'heures sûrement à prier pour moi, pour s'occuper de moi. Mais elle n'a jamais, jamais démontré dans la famille. Et elle a attendu que je quitte la maison pour me dire « T'étais quand même mon préféré. » Probablement qu'on avait des points de ressemblance ensemble. Mais dans l'Église, c'est important que c'est humain qu'on s'entende plus avec des gens, qu'on ait des affinités avec les uns que d'autres, mais on ne doit pas le montrer. Dans l'Église, quand on descend en bas, on veut donner la main à quelqu'un, ça nous fait plaisir de te rencontrer, qui t'a invité si c'est la première fois, et ainsi de suite, prendre un temps, quoi. 5 minutes. 5 minutes avec la personne. Pas obligé de passer toute l'avant-midi. 5 minutes avec la personne. Alors, c'est quelque chose que je vous invite à prendre comme résolution. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, une autre façon consiste à les visiter ou à les recevoir à la maison. Et ça aussi, c'est pas facile, ça. Pas facile. Il n'y a personne qui vient au monde, hein, avec une facilité à recevoir les gens à la maison. Hein. Mais non. Surtout des gens qui sont méticuleux sur le ménage. Hein. On a peur que les gens voient de la poussière. Hein. « Oh, regarde, il y a une araignée qui a tissé une toile dans le coin. Les gens vont penser que je ne fais jamais mon ménage. Hein. » Ouais, les toilettes, il faut qu'ils soient propres. Hein, comme si c'était des toilettes neuves à chaque fois qu'on reçoit quelqu'un. Hein. Ouais. Bon, il n'y a personne qui vit au monde avec une facilité à recevoir les gens. Et il n'y a personne non plus qui accepte facilement d'être reçu par des gens parce qu'on ne sait pas comment la situation, on ne sait pas ce qu'ils vont penser de nous. Mais en dehors de ça, c'est que c'est une question de pratiquer l'hospitalité. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous demande. Je ne vous donnerai pas son nom. Hein. Il y a une sœur ici là, que j'ai connue, que vous avez connue. J'allais la visiter une fois par 6 semaines. Hein. Premièrement, parce qu'elle était toute près de chez moi. Et ça lui prenait au moins 5 minutes avant d'être capable de me faire une phrase convenable. Parce qu'elle me disait que pendant toute la semaine, elle ne rencontrait aucun être humain. Et qu'elle gardait son chat pour ne pas perdre l'usage de la parole, quoi. Elle parlait avec son chat, la sœur. Mais je trouvais ça épouvantable, quoi. Maintenant, vous savez, ces paroles-là, elles sortent de sa bouche. Mais ça laisse entrevoir quoi, ça? Pour les gens, pasteur, je suis déjà morte, quoi. Je ne demande pas aux gens de venir me visiter. Je leur demande simplement de prendre le téléphone, quoi. Frères et sœurs, l'Église, c'est une famille. Moi, si mes parents ne m'avaient jamais appelé, je m'aurais posé des questions à savoir s'ils m'aimaient, s'ils me considéraient, quoi. J'ai 6 frères et 1 sœur, ils ne m'appellent jamais, j'ai compris, quoi. Ils sont dans le monde. Je comprends ce point-là, quoi. En 2007, je suis allé au Québec, j'ai appelé un de mes frères, j'ai dit, écoute, je suis au Québec, veux-tu qu'on prenne un café ensemble? J'ai pas le temps. Ça faisait 10 ans, 15, 12 ans que je ne l'avais pas vu, il n'y a pas le temps. J'ai compris, hein? C'est une façon polie de me dire, écoute, je ne veux rien savoir de toi. Tu es chrétien, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Mais l'Église, c'est une famille. Prendre la résolution de connaître davantage des non-chrétiens. Tant que nous avons l'occasion, dit l'apôtre Paul, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères à la fois, mais les biens envers tous. Essayons de trouver des occasions pour établir des contacts avec nos voisins. Lorsque nous avons déménagé dans un nouveau quartier à Montréal, dans les années 85, eh bien, il y a un père africain qui est venu nous souhaiter la bienvenue. Et ça m'a marqué jusqu'à la fin de mes jours. Il est venu me porter du pain, du sel et un pot de miel pour me souhaiter la bienvenue dans le quartier. Et il est venu au nom de sa famille, quoi. Il ne me connaît pas, le gars. Il a vu qu'un camion de déménagement qui est arrivé durant la semaine, et quand il a vu que tout était en place, bien, il est venu nous porter ces trois ingrédients-là. Ah, mais ça m'a touché, moi. Parce que finalement, tu ne connais pas tes voisins quand tu débarques à une place. Et que ce gars-là me souhaite la bienvenue, eh bien, au nom des voisins du quartier, moi, ça me bénissait, quoi. Je me sentais déjà à l'aise. Je me sentais un peu plus chez moi. Moins un étranger, en tout cas. Le but visé, en fait, c'est de créer des occasions pour partager l'Évangile. Ces résolutions, frères et sœurs, en terminant, peuvent paraître simplistes, mais si nous les mettons en pratique, nous ne pouvons pas soupçonner les nombreuses portes qu'elles peuvent ouvrir devant nous. Entre autres, elles vont produire la manière de vivre qui doit caractériser tout chrétien. Je vous demande de prendre des résolutions. Maintenant, je vais vous faire une confidence. C'est la vie normale chrétienne. C'est la vie normale chrétienne. Tout ce que je vous ai donné, vous regarderez sur Internet. Ce n'est que des versets que je vous ai cités ce matin. C'est la vie chrétienne normale. Et de cette façon-là, là, on va arrêter de faire des pétitions pour qu'on ne construise pas de mosquée, parce qu'on ne combat pas une idée par des pétitions, on combat une idée par une autre idée, et l'autre idée, c'est celle de Jésus-Christ, c'est le message de Jésus. Mais ce que je viens de vous dire, ce sont des résolutions qui définissent la vie chrétienne normale. Elles vont nous amener à développer une relation plus étroite avec le Seigneur, avec nos frères et sœurs en Christ et avec les gens de ce monde. Cela sera une source de bénédiction non seulement pour nos propres vies, mais pour l'Église et les gens qui nous environnent. Je vais vous donner un exemple. Moi, c'est vrai, je viens du monde, j'ai peut-être la parole plus facile que d'autres. Hier, je vais au Délaise. Hein? Je dis, okay, je vais voir pour voir si là, c'était dans la bousculade, c'était vers la fin, il fermait plus tôt. Je dis, okay, je vais voir comment est-ce qu'on peut ouvrir des portes. Et durant la journée, j'étais retourné, ben, j'avais été dans un premier temps, puis j'avais vu lait battu. Bon. Moi, je ne suis pas un gros cuisinier. Du lait battu, puis du lait frais, puis du lait UHT. Moi, je connais la différence entre le UHT et le lait frais, mais du lait battu. Alors, j'ai dit, je croise une femme. Je dis, madame, j'ai un service à vous demander. Les gens, ils aiment rendre service. J'ai non seulement un service à vous demander, mais un conseil. Ah, ben, ils sont contents, les gens, de donner des conseils. Hein. J'ai dit qu'il n'y a qu'une femme qui peut me répondre là-dessus. Qu'est-ce que c'est du lait battu? Ah, mes chers amis, j'avais presque une recette en plein visage. Hein. Ah, mais ça, c'est pour la cuisine, ça. C'est pas pour boire. Ah! OK, parce que j'ai une bouteille chez moi, ça fait quelques semaines. Bon, je ne sais pas si ça va être encore bonne, mais ça fait quelques semaines et je ne sais pas quoi en faire, quoi. Et ça peut être l'occasion d'entrer dans parler de l'Évangile, quoi. Ouais. Mais c'est un beau défi pour nous. Hey, les hommes, là, ici, hein? C'est assez facile d'embarquer dans le sport. Hein? On parle de tout, puis à un moment donné, vous voulez parler du foot. Ça, c'est pas long qu'on peut parler du foot. Hein? On trouve des occasions pour parler du foot. Hein? Ouais. Même si on ne sait même pas si la personne elle aime le foot, on va y aller avec le foot, hein, si on aime bien le foot. Hein? Ben, l'Évangile, c'est la même chose. Quand on aime le Seigneur Jésus-Christ, à un moment donné, on essaye d'ouvrir des portes aussi pour parler de l'Évangile. Hein? Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est tout. Hein? Si ça peut vous consoler, moi, en 20 ans ici, là, ça fait plus que 20 ans que je suis ici, j'ai jamais reçu une gifle de la part des Belges. Les Belges, je les trouve extrêmement polis dans leur réaction par rapport à l'Évangile. Le Belge, quand il n'est pas intéressé, il se tait. Après, il dit, je vous remercie, je ne suis pas intéressé. Au Québec, je vous amènerai à faire un voyage au Québec. Hein. Coup de pied dans le derrière, tape dans la figure. Hein. Oui, on ne se gêne pas au Québec. Hein. Ouais. Alors, profitons de l'occasion. Frères et sœurs, non seulement ce sera une bénédiction ce sera aussi une source de bénédiction non seulement pour nos propres vies, mais pour l'Église et les gens qui nous environnent. Le temps est une denrée précieuse que Dieu nous accorde. Nous ne savons pas ce que notre vie sera demain. Nous sommes en effet comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant, qui disparaît ensuite. Nous devons donc nous appliquer à racheter le temps et faisons donc un bon usage de toute occasion qui se présente à nous. Et j'espère que ces suggestions de résolution pour la nouvelle année nous aideront à faire un meilleur usage du temps que le Seigneur nous accorde pour faire en sorte que son royaume progresse sur la terre. Voici un poème. J'ai dit en terminant tantôt, je m'excuse, ça va être la deuxième fois. Voici un poème. J'aimerais vous partager un poème. Le titre, c'est « Une nouvelle année, un nouveau commencement ». Une année vient de se terminer, une nouvelle commence, avec des pages qui sont blanches et nouvelles. Et ce qui sera écrit sur chaque page dépend maintenant de vous. Vous ne pouvez pas ni revivre l'année qui vient de, se terminer, ni effacer tous vos torts. Car une fois qu'un jour ou qu'une année se termine, on ne peut plus jamais revenir en arrière. Mais ne soyez pas désespérés ni découragés. Si vous avez échoué quelques tests, cherchez le pardon du Seigneur et prenez la décision de vous appliquer à faire du mieux que vous pouvez. Vous ne savez pas où vos pas peuvent vous conduire, encore moins ce que vous trouverez au sommet de la colline. Mais sachez que le Seigneur Jésus marche à vos côtés si vous vous appliquez à faire sa volonté. Toutes choses sont possibles avec Dieu, même si certains jours peuvent être sombres ou éclairés. Alors faites du mieux que vous pouvez. Et sachez que vous pouvez vous reposer sur lui, un auteur inconnu. Et si vous êtes un enfant de Dieu qui vous êtes éloigné du Seigneur, vous avez simplement besoin de faire un meilleur usage du temps qui se présentera à vous tout au long de la prochaine année. Et ainsi, puisque nous collaborons avec Dieu, nous vous supplions, dit Paul, ne négligez pas la grâce que vous avez reçue de lui. Dieu déclare en effet, « Au moment où se manifestait ma faveur, je t'ai écouté au jour du salut. Je suis venu à ton secours. Eh bien, voici maintenant le moment d'accepter la faveur de Dieu. Voici encore aujourd'hui le jour du salut. » Si dans cette salle, vous ne l'avez jamais fait. Et c'est pas, vous n'êtes pas obligé d'apprendre une prière par cœur. Dieu regarde à vos cœurs. Simplement dire, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais, Seigneur, que je suis ennemi de toi, Seigneur. Et je reconnais, Seigneur, que je pêche contre toi, que je fais des choses qui te sont désagréables et que je suis perdu en dehors de ce que Christ a accompli sur la croix pour moi. Et ce matin, Seigneur, bien, je vais t'offrir ma vie. Je vais te remettre mes péchés entre tes mains. En retour, Seigneur, couvre-moi de ta justice, Seigneur, afin que tu ne me vois plus comme étant un pécheur, un ennemi du royaume de Dieu, mais comme étant un enfant qui t'appartient. Et Seigneur, je te remercie à cause du sacrifice de Jésus de m'adopter dans ta famille, de me faire rentrer dans ta famille de Dieu avec toutes les promesses qui accompagnent, Seigneur, ceux qui appartiennent à cette famille. Et aujourd'hui, Seigneur, je veux faire non seulement de Jésus mon sauveur, mais je veux aussi faire de Jésus mon sauveur. Parce que non seulement je proclame que je suis chrétien, mais je veux vivre comme un chrétien, comme un enfant de Dieu, digne de porter ce nom. Amen. Merci Seigneur d'avoir accepté cette prière. J'invite à vous lever. On va